France Culture. Les nuits de France Culture.
En 1998, Catherine Pont-Humbert consacrait une série de 5 numéros du cabinet de curiosité à Giacomo Casanova, dont chacun abordait un aspect de la personnalité et du roman que fut la vie du légendaire séducteur vénitien. Casanova, nous ne nous aventurerons pas à le présenter, puisque Catherine Pont-Humbert le faisait très bien en ouvrant la première de ces émissions que nous allons entendre. Elle avait pour titre « Entre ombre et lumière, l'amoureux séducteur ». Elle y recevait Lydia Flemm qui, en 1995, avait publié au Seuil « Casanova ou l'exercice du bonheur ». Une étude de la vie de Casanova qui racontait comment l'enfant délaissé qu'il avait été était devenu cet homme dont la réputation et l'œuvre, à laquelle il consacra ses dernières années d'existence, ont traversé les siècles. Le cabinet de curiosité, figure de Casanova, premier des 5 épisodes, entre ombre et lumière, l'amoureux séducteur, une émission diffusée le 1er juin 1998 sur France Culture.
Je me demande si je voudrais renaître femme. Et curiosité à part, je dis que non. J'ai assez d'autres plaisirs étant homme, que je ne pourrais pas avoir étant femme, qui me font préférer mon sexe à l'autre. Je conviens cependant que, pour avoir le beau privilège de renaître, je me contenterai et je signerai, principalement aujourd'hui, à renaître non seulement femme, mais brute de quelconque espèce. Bien entendu que je renaîtrai avec ma mémoire, car sans cela, ce ne serait plus moi.
Figure de Casanova, entre ombre et lumière, l'amoureux séducteur. Né en 1725 et mort en 1798, aventurier, homme de lettres, magicien, tricheur occasionnel, franc-maçon, espion, faussaire et grand ami des femmes, Giacomo Casanova a parcouru son siècle et l'Europe, incarnant à la perfection son époque brillante et dissolue, jusque dans ses paradoxes et ses contradictions. Si le mythe ne retient de Casanova que la liberté insolente et l'extraordinaire pouvoir de séduction, il ne doit pas occulter le penseur et l'écrivain. Il y a un effacement de Casanova écrivain derrière Casanova séducteur, et cependant le second n'existe que par le récit du premier, metteur en scène de ses aventures dans l'histoire de ma vie. Amoureux perpétuel pendant plus de 40 ans, car Casanova n'est pas un don Juan, il a aimé toutes les femmes qu'il a connues, il a également vécu une seconde vie dans l'écriture, lui consacrant les 13 dernières années de son existence. L'histoire de ma vie est un remarquable témoignage sur l'Europe du XVIIIe siècle. Des salons les plus brillants aux soupentes des prostituées, de l'aristocratie aux comédiens, des philosophes aux joueurs, de l'ombre à la lumière de son siècle, Casanova a tout vu et tout retenu.
Le premier souvenir d'enfance de Giacomo Casanova se passe bien sûr à Venise. Au commencement du mois d'août 1733, il a 8 ans.
Lydia Flemm.
Et ça se passe dans la maison familiale qui se trouve à la Calle della Commedia, la rue de la Comédie, où qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, depuis sa naissance, c'est un enfant, au fond, délaissé, abandonné par ses parents. Sa mère quitte son enfant dès qu'il a un an, la confie à sa propre mère pour partir faire ses débuts au théâtre à Londres. Et Casanova est un petit enfant malade qui saigne abondamment du nez. On ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi il ne meurt pas. Et on ne pense pas réellement à s'en occuper, à lui adresser la parole. Mais quand même, sa grand-mère, sa nonne, qui est une brave femme, se dit « Mais cet enfant, on ne peut pas le laisser dépérir de la sorte. » Et comme vraisemblablement les médecins de l'époque n'ont pas grand-chose à proposer, elle pense à une sorcière. Et elle l'emmène avec lui un jour du mois d'août. Elles prennent le bateau, ils vont jusqu'à l'île de Murano. Et Giacomo se laisse faire. Il comprend que les deux femmes, sa grand-mère et la sorcière entourée de chats, se parlent dans une langue qu'il ne comprend pas. Et la vieille magicienne l'emmaillote, le met dans une boîte, prononce des paroles, chante, pleure, crie, le sort de la boîte, le démaillote, le masse, le caresse, lui met des onguents. C'est toute une scène tout à fait extraordinaire où on a le sentiment que se rejoue peut-être symboliquement une gestation et une naissance. Mais ce qui est très très important dans cette scène qu'il raconte tout au début de l'histoire de ma vie, c'est qu'évidemment, la première scène, le premier souvenir, c'est une scène de sorcellerie, de magie, et qui est scellée par un secret, parce que bien évidemment, à l'époque, l'Inquisition pourchassait les sorcières, et donc il lui est dit d'un ton extrêmement ferme et clair, par la sorcière, mais aussi par la grand-mère, qu'il n'est pas question de jamais raconter ce qui s'est passé là. Et bien sûr, l'enfant promet, d'autant plus facilement que puisque personne ne l'écoute et qu'il ne parle quasiment en lui-même à personne, il ne craint pas de trahir ce secret.
Alors bien évidemment, cet épisode qui occupe une place extrêmement importante et qui est chargé d'une symbolique extrêmement riche, c'est cet épisode-là qui déclenche de surcroît la mémoire, puisque Giacomo Casanova explique qu'avant cette scène-là, il ne se souvient absolument de rien de ce qui a pu lui arriver. Il a donc 8 ans et demi et le mécanisme de la mémoire se met en marche ce jour-là.
C'est ça, la mémoire se met en marche, et je dirais l'éveil au monde, l'intelligence, puisqu'à partir de là, lui qui était tout à fait bête, va se mettre à apprendre très rapidement d'ailleurs tout ce qu'on peut à l'époque lui offrir comme apprentissage, à la fois le latin et bon, bien sûr des rudiments de grammaire, de mathématiques, de violon aussi, ce qui lui servira plus tard. Il y a aussi un deuxième souvenir d'enfance qui est très important, c'est le cristal dérobé à son père, où il fait au fond accuser son frère de ce vol, et où il est très blessé que son père se laisse si facilement duper. Et ce souvenir est très important parce que peu après, le père va mal. Et là, ce n'est plus une sorcière, mais c'est un médecin qui va essayer de le sauver. Et au lieu de le sauver, Giacomo a le sentiment que ce médecin tue son père. Donc je dirais qu'au départ, il y a d'emblée, d'un côté, la sorcellerie qui le guérit lui, et d'autre part, la médecine qui tue son père. Et Giacomo a désiré être médecin, mais on lui a refusé de faire ses études, et on lui a proposé au contraire de faire le droit qui ne l'intéressait absolument pas. Et ce qui se passe, c'est qu'après la mort de son père, Zanette a sa mère qui est toujours comédienne, qui a 5 enfants et qui va en avoir un 6e très rapidement après, se trouve très encombrée, je dirais, d'enfants, décide de les abandonner à sa mère et de partir jouer la comédie avec Goldoni. Et on l'envoie à Padoue, d'abord dans une sombre pension à la Dickens, d'où encore une fois sa grand-mère bienfaitrice le fait sortir et l'installe auprès d'un abbé, l'abbé Gozzi, où il va en effet apprendre très rapidement énormément de choses, et sa curiosité là est complètement éveillé au monde. C'est là aussi qu'il aura, je dirais, sa première initiation aux ruses des femmes, pourrait-on dire.
Bettine venait me peigner tous les jours, et souvent lorsque j'étais encore au lit, me disant qu'elle n'avait pas le temps d'attendre que je m'habillasse. Elle me lavait le visage, le cou et la poitrine, et elle me faisait des caresses enfantines qu'en devoir de juger innocente, je me voulais du mal de ce qu'elle m'altérait. Quand, assise sur mon lit, elle me disait que j'engraissais et que pour m'en convaincre, elle s'en rendait sûre par ses propres mains, elle me causait la plus grande émotion. Après m'avoir débarbouillé, elle me donnait les plus doux baisers, m'appelant son cher enfant. Mais malgré l'envie que j'en avais, je n'osais pas les lui rendre. Quand enfin elle commença à mettre en ridicule ma timidité, je commençais aussi à les lui rendre, même mieux appliqués. Mais je finissais d'abord que je me sentais excité à aller plus loin. Je tournais alors ma tête de l'autre côté, faisant semblant de chercher quelque chose, et elle partait.
C'est une scène évidemment importante, puisque d'emblée, il est le jouet de cette jeune fille. Il n'est pas pubère encore et elle est chargée de prendre soin de lui. Il y a une phrase d'ailleurs très, très claire, parce que en le lavant, elle pousse un peu trop loin le zèle et sa curiosité cause à Giacomo une volupté si vive, dit-il, qu'elle ne cessa que quand elle se trouva dans l'impossibilité de devenir plus grande. Donc elle l'éveille à la sensualité, mais comme il n'est qu'un très jeune garçon, en réalité, Bettine a des rendez-vous amoureux avec un autre pensionnaire de la maison, ce qui blesse énormément le petit Giacomo, qui ne peut que faire une chose, c'est se mettre de son côté à elle. Et ce qui lui arrive à elle, eh bien, c'est qu'elle a des convulsions très violentes, on dirait hystériques aujourd'hui, et que il fait, lui, le lien. En tout cas, c'est ce qu'il raconte longtemps après, qu'il fait le lien entre ce qu'il appelle ses travaux nocturnes et cette étrange maladie dont personne n'arrive à la guérir.
Mais que l'on diagnostique quand même comme étant une possession du diable, et on fait venir un exorciste, et Giacomo assiste à l'exorcisme.
Absolument, et il se demande d'ailleurs à un moment où la porte est fermée, ce qui se passe entre le bel exorciseur et la très jolie Bettine. Donc, je crois que c'est un événement tout à fait marquant pour lui, dans la mesure où, il le dit d'ailleurs, il voit bien qu'elle le dupe, mais il accepte d'être dupé et il lui voue d'ailleurs une grande fidélité, puisqu'il sera là le jour où, longtemps, longtemps après, elle mourra. Donc, à la fois, on voit d'emblée qu'il est le jouet des femmes et qu'il accepte d'être le jouet des femmes. Je pense que c'est aussi lié à cette relation étrange avec sa mère, où elle est à la fois une mère, évidemment, qui l'abandonne, mais aussi une mère magique. Et cette mère comédienne lointaine et superbe, dans les mémoires de Goldoni, il parle de la beauté de Zanetta Casanova. Au fond, jamais il n'avouera qu'il est triste, jamais il n'avouera qu'il lui en veut de l'avoir abandonné, et je pense que ça va, d'emblée, ça le met dans une relation aux femmes qui est, il n'y a qu'une seule solution pour ne pas attirer leur haine ou leur abandon, c'est d'accepter d'être sous leur emprise d'une certaine façon, c'est de tenter de répondre à leurs désirs. Il y a un épisode bref dans les mémoires où il raconte qu'une femme, au fond, veut lui faire du tort et elle joue à un jeu de magie noire où elle pique une petite poupée avec des aiguilles et il se rend compte qu'elle est vraiment menaçante pour lui et il lui arrive ce qui ne lui était plus arrivé depuis son enfance, il saigne à nouveau abondamment du nez. C'est-à-dire que, au fond, les femmes sont toutes puissantes. Elles peuvent donner la vie, mais elles peuvent aussi donner la mort. Donc, il va négocier avec les femmes toute sa vie entre ces deux pôles-là, en tentant toujours de leur donner ce dont elles ont besoin pour qu'elles n'exercent pas de violence à son égard.
À travers ces épisodes d'enfance, on peut aussi probablement, Lydia Flemme, se dire que Casanova apprend très tôt cet art à la fois de la mise en scène et donc de la lumière, mais aussi de la dissimulation, soit par le secret, soit par le mensonge, art qu'il va par la suite développer avec beaucoup de maîtrise tout au long de sa vie, sachant tour à tour se mettre en avant sur le devant de la scène, puis disparaître lorsque ce sera nécessaire, notamment à la suite d'aventures auxquelles il veut mettre un terme.
Oui, je ne dirais pas qu'il disparaît réellement quand une aventure... Je pense que vraiment Casanova est un anti-Don Juan et un anti-Sade. Il a, pour les raisons que j'ai exposées, extrêmement peur de la violence et de la contrainte. Donc il veut avec les femmes un rapport de réciprocité. Il dit d'ailleurs qu'il ne peut pas éprouver de plaisir si la femme n'en a pas elle-même. Donc c'est souvent les circonstances de la vie qui mettent un terme à des relations amoureuses, aussi parce qu'il voyage beaucoup et que les femmes qu'il rencontre sont souvent elles-mêmes des femmes qui voyagent, par exemple des artistes, et que mettre un terme à une relation pourrait faire naître chez la femme de la haine et un désir de vengeance. Or, il veut s'en abriter. Donc, je crois que c'est plus compliqué que ça. Ce qu'on voit, c'est que très souvent, je dirais, il y a des... Pas seulement très souvent, sans cesse, il y a des hauts et des bas dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments de gloire et de pleine lumière où il est sur le devant de la scène du monde, parce qu'il n'est pas comédien sur la scène de théâtre, mais il est comédien sur la scène du monde, on peut dire. Et à certains moments, en effet, il se retire, mais ce n'est pas toujours de son chef. Je veux dire, il a de réels ennuis aussi, notamment à Venise, parce qu'en effet, l'Inquisition commence à se poser des questions sur les pratiques occultes qu'il a avec Bragadine et ses amis. Et c'est ça, c'est aussi le problème majeur de Casanova tout au long de sa vie, c'est que c'est un homme qui est mal né. Pendant tout un temps, il se conduit comme le fils légitime d'un aristocrate, et en réalité, bien sûr, il ne l'est pas, et il pense qu'il y a une sorte qu'il a une impunité qu'il n'a pas. Mais comme vous savez, à un moment donné, les choses vont le rattraper, et l'Inquisition va réellement l'arrêter. Donc c'est quelqu'un certainement qui a aussi une certaine arrogance qui ne lui est pas accordée, parce qu'il n'est que le fils d'un comédien. Et je pense que c'est un personnage qui est d'une certaine façon très moderne et qui nous trace la voie d'un individu qui veut être reconnu pour ses talents personnels. Il revendique le droit d'être quelqu'un qui a un génie propre, indépendamment de ses origines.
Belle Thérèse, tu me supposes riche, je ne le suis pas. Je n'aurai plus rien quand j'aurai fini de vider ma bourse. Tu me supposes peut-être homme de grande naissance et je suis d'une condition ou inférieure ou égale à la tienne. Je n'ai aucun talent lucratif, aucun emploi, aucun fondement pour être certain que j'aurai de quoi manger dans quelques mois. Je n'ai ni parents, ni amis, ni aucun droit pour prétendre et je n'ai aucun projet solide. Tout ce que j'ai à la fin n'est que jeunesse, santé, courage, un peu d'esprit, des sentiments d'honneur et de probité, et quelques commencements de bonne littérature. Mon grand trésor est que je suis mon maître, que je ne dépends de personne, et que je ne crains pas les malheurs. Mon caractère plie à être dissipateur. Voilà ton homme. répond.
Lorsque je disais que Casanova disparaît à la suite de ses liaisons, c'est parce qu'effectivement il y a chez lui un processus permanent de fuite, mais qui est aussi lié à sa vie itinérante. Mais vous avez raison de dire que cela n'enlève absolument rien à la sincérité de ses émotions, puisqu'il est à chaque fois réellement amoureux de toutes les femmes qu'il séduit, ce qui effectivement le différencie totalement de Don Juan. Et il n'y a d'ailleurs chez Casanova aucun compte des séductions qu'il fait. Il n'y a pas de Leporello derrière pour compter le nombre de femmes dans sa vie.
Certainement pas, et d'ailleurs finalement il n'y en a pas eu tant que ça. Je pense que ce qui est très très important, c'est vrai qu'il séduit, mais il est séduit. Et donc, il est sincère, même si ça paraît étonnant d'être à la fois sincère et inconstant. Et d'une certaine façon, quand il, dans les 13 dernières années de sa vie, il écrit l'histoire de sa vie, il redonne la place par le souvenir à ses femmes. Et c'est une forme de fidélité, je dirais, littéraire qu'il leur offre en les différenciant très clairement. Il a eu quand même quelques amours très forte et intense. Et ce qui est assez remarquable aussi, c'est qu'il maintient, quand il le peut, une forme d'amitié ou une forme de lien par la correspondance.
La part de l'ombre et de la lumière chez Casanova, dans ce chapitre des femmes, on peut également en voir une trace à travers le fait que certaines des femmes que rencontre Casanova sont désignés par leur prénom ou par leur nom, tandis que d'autres n'apparaissent que par l'initiale de leur nom, et donc leur identité est dissimulée.
En général, ce sont les femmes de l'aristocratie qu'il désigne par une lettre. Les femmes de l'aristocratie impressionnent Casanova et elles lui paraissent assez souvent des femmes impossibles à atteindre. Il aura plusieurs amours platoniques, parfois déclarés, parfois même tus, à l'égard de certaines femmes qui sont trop haut placées, on pourrait dire. Il a le désir d'appartenir à la société aristocrate et il en fait partie d'une certaine façon, d'autant plus qu'à cette époque, l'Europe de la conversation tient pour essentiel les gens qui ont de l'esprit. Donc il est invité à toutes les tables, mais sans cesse on lui rappelle aussi qu'il ne doit pas aller trop loin dans sa liberté. Et donc il est souvent, par les autorités d'un lieu ou d'un autre, chassé.
Vous disiez, Lydia Flem, Casanova est fasciné par l'aristocratie parce qu'il y a tout simplement cette naissance qu'il n'a pas, parce qu'il y a l'argent, et Casanova adore dépenser, adore l'argent, adore tout ce qui brille. Là, c'est la face lumière. Et en même temps, sa vie n'est faite que d'une alternance entre les salons, endroit où il semble d'ailleurs très très à l'aise, et où, vous le disiez, sa conversation attire, et les bouges.
Mais il est au fond un homme assez proche des philosophes de l'Antiquité, pour qui il s'agit d'être toujours en adéquation avec le moment présent. Le kairos, c'est l'occasion. Donc il s'agit d'être érudit avec les érudits, d'être galant avec les galants, et d'être en effet, comme il le dit, grec avec les grecs, ce qui voulait dire tricheur au jeu de cartes, avec les tricheurs au jeu de cartes. C'est-à-dire qu'il est souvent à la recherche, il veut être dans le désir de l'autre, il veut remplir le désir de l'autre, donc il est dans une forme de mimétisme.
Vous disiez, Lydia Flem, Casanova entre dans le désir de l'autre. Il me semble que c'est une très bonne définition du personnage, mais me semble-t-il avec peut-être une limite, C'est-à-dire tant que le désir de l'autre ne se traduit pas par un signe d'autorité. C'est-à-dire Casanova ne supporte pas que la loi vienne. Il a sans cesse besoin de rester justement hors la loi. Et toute marque, tout signe d'autorité lui est absolument insupportable.
Absolument, d'autant plus que, évidemment, à l'époque, l'autorité, c'est souvent simplement le bon plaisir du prince. Et c'est quelque chose qui le révolte. C'est-à-dire que il voudrait évidemment que ce soit son bon plaisir à lui qui décide des événements. Mais le rapport au père, au fond, est trouble parce qu'à la fois, il a souffert de ce père qui s'est laissé duper dans ce souvenir du cristal volé où le père n'a pas compris que c'était lui le voleur et qui a puni son frère. Et donc, il est toujours à la recherche, d'une certaine manière, d'un père qui serait maternel, d'un père qui serait encourageant, qui serait généreux. Et quand il se trouve face à une autorité irrévocable et absolue, qui lui dit « vous avez 3 jours pour quitter le territoire », c'est vrai qu'il se révolte, mais il n'a pas d'autre choix. Il quitte quand même le territoire, mais souvent, alors, il écrit des pamphlets, il prend la plume pour se venger, parce que jamais, au fond, il ne veut céder réellement, même si, de fait, il doit céder. Il ne cède d'une certaine manière qu'en apparence. Intérieurement, il veut maintenir sa liberté d'être seul maître de la loi et du plaisir. Mais c'est là aussi où peut-être qu'il se renvoie lui-même vers les bas-fonds ou la maladie ou la misère comme une forme de punition aussi que son père ne lui a pas, on pourrait presque dire accordé, puisqu'il n'a pas été puni pour son méfait. Son rapport à la loi est complexe parce que il ne s'agit pas réellement de la transgresser au sens peut-être pervers, mais de la chercher pour qu'il y ait un père enfin en face de soi qui soit plausible, qui soit crédible et qui soit admirable. Or, il trouve que souvent les princes ne sont pas à la hauteur de leur rôle d'une certaine façon. Bien sûr, il joue toujours entre la loi et la transgression de la loi. D'une certaine façon, il voudrait toujours être cet enfant aimé inconditionnellement comme sa grand-mère l'aimait, qui est au-dessus des lois et des règles, et aussi au-dessus de la différence des sexes, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose de très important, je pense, à de nombreuses reprises, quand il raconte des scènes d'amour, il dit que les genres, au fond, se brouillent, qu'il ne sait plus de quel sexe il est et que sa partenaire aussi. Donc il a cette idée, je pense que c'est très important, que dans l'amour, les différences s'abolissent et qu'on n'est plus ni homme ni femme, mais l'un et l'autre. Et donc, c'est aussi quand même, je crois, très important, un homme qui accepte sa part de féminité. Je pense que ça devait être une des formes de son charme auprès des femmes, c'est qu'elles se sentent reconnues dans leur féminité, acceptées profondément dans leur féminité. Et donc, on a l'impression qu'il joue un peu à passer sans cesse, oui, peut-être, de l'ombre à la lumière, de la maladie à la bonne santé, de la fortune à la pauvreté, du haut de la société au bas-fond, et inversement. Ce qui est peut-être une forme, en partie illusoire, sans doute, de narcissisme, de toute puissance, c'est-à-dire que c'est le destin lui appartient.
Figure de Casanova,
Entre ombre et lumière, l'amoureux séducteur, avec Lydia Flem, psychanalyste et écrivain, auteur de Casanova ou l'exercice du bonheur, publié aux éditions du Seuil. Texte lu par Éric Dufay. Le cabinet de curiosité, Jean-Pierre Juncker, Vincent Deck, Catherine Pont-Imbert.
C'était le premier de 5 numéros de la série « Figures de Casanova » proposée par Catherine Pont-Imbert pour le cabinet de curiosité. Première diffusion le 1er juin 1998 sur France Culture. À suivre.